Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Parentalité, jeunes, politique, Europe et insertion. Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer une petite discussion autour d'un thé. À chaque échange, je serai accompagnée de professionnels, de parents ou de jeunes. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'être accompagnée non seulement de Salima Yembou, députée européenne, mais aussi de Gwenola, qui est présidente de l'école Weno, des élèves de Weno qui vont se présenter également, et de Barberich et Johan, qui sont là aussi pour mettre les pieds dans la tasse. Alors, on va commencer tout de suite par présenter ce plateau. Qui commence? Allez, on se fait un truc.
Ok. Allez, vas-y. Bonjour, je m'appelle Stacy, donc je suis étudiante à Weno.
Ouais.
Et je suis la formation de manager d'unité marchand.
Ok, voilà. Super. Et du coup, tu es étudiante chez Weno depuis combien de temps?
Ça fera, depuis moins d'un an.
Moins d'un an, ouais. Ok. On reviendra sur ton plat, sur ton parcours. Merci en tout cas d'être venue aujourd'hui. Et toi, qui es-tu?
Du coup, moi, je suis Zakaria, j'ai 18 ans et pareil, comme Stacy, je suis étudiant à l'école Weno, donc dans la même classe qu'elle, donc en manager d'unité commerciale. Je suis étudiant là-bas depuis octobre, si je ne me trompe pas, donc en alternance. Et c'est déjà pas mal.
Ouais, super. vous avez des frères et sœurs tous les deux?
Oui.
Ouais.
Yes.
Ok, ça marche. Ça nous permettra de faire un petit peu le pont et la liaison avec vos parents. Mais qui est ce monsieur en face de moi? Qui es-tu?
C'est Johan, donc je suis le collaborateur parlementaire de Salima Yembou, qui est députée européenne et qui est aussi sur cette émission.
Johan, je crois que tu n'es pas que ça.
Oui, tout à fait. Je suis président d'une petite asso encore un peu jeune, qui s'appelle Les Alchimistes, donc qui est sur Melun, en Seine-et-Marne, et qui accompagne en fait les jeunes collégiens, c'est vraiment ce public-là, sur mon ancien collège, donc qui s'appelle Pierre Brossolette, QPV, tout ce qu'il faut. Et l'objectif, c'est en fait, avec des amis à moi, pas forcément du même âge, on a eu des parcours différents. Aujourd'hui, on estime qu'on peut redonner quelque chose, et notamment à travers notre réseau, à travers notre parcours, pour permettre aux jeunes collégiens de faciliter leur parcours. Et peut-être de ne pas prendre autant de temps que nous, on a dû prendre un parcours semé d'embûches. Et le but, c'est de faciliter leur parcours.
Ok, super. Merci pour ça. Tu es également papa?
Exactement, papa de deux enfants en bas âge.
C'est important de le préciser,
exactement,
en bas âge.
Exactement.
Merci à toi, Johan. Barberich, on te présente presque plus, mais aujourd'hui, tu vas le faire. Qui es-tu?
Qui je suis? Je me pose la question tous les matins quand je me lève. Co-fondateur de l'entité Soparks. À côté de ça, je suis aussi journaliste depuis plus d'une dizaine d'années, producteur, chroniqueur, animateur des différentes émissions.
Est-ce qu'accessoirement, tu es papa?
Papa de trois enfants, trois filles.
À chaque fois, j'ai l'impression de lui dire, est-ce qu'accessoirement, tu peux ne pas oublier mes enfants?
Trois filles.
Trois filles. En bas âge?
Non. 16, 14, 12.
Ok, ça marche. Salima, qui es-tu?
Alors, je vais me présenter à l'Occidental par ma fonction. Donc, Salima Yembou, députée européenne depuis 2019. Et je vais me présenter à la manière africaine par ma filiation. Donc, je suis la fille de deux parents algériens et j'ai trois enfants.
Super, merci à toi. Gwenola, qui es-tu?
Alors, Gwenola Montero, donc chef d'entreprise, mais plus particulièrement d'une école Weno US, une école alternative. Et je suis maman de quatre enfants.
Super. Ben alors, on va pouvoir commencer à mettre tout de suite le sujet sur
la
table.
Ça leur a fait peur. Bon. Ils se sont dit, mais on est où là?
On est où? Ah, mais vous inquiétez pas, on va passer un bon moment. L'idée, c'est justement de parler jeunesse, politique, Europe, mais aussi insertion. Mais avant, est-ce qu'on peut essayer de définir ensemble la politique? Quand vous entendez politique, qu'est-ce qui vous vient en tête? À quoi tu penses?
La politique, ça serait tout ce qui est relatif à la gestion du pays.
Ok. Pour toi, Stacy, quand tu entends politique, qu'est-ce qui te vient en tête?
Ça va être la même chose. Après, sans mentir, c'est pas un sujet que je...
Que tu maîtrises, que mais est-ce maîtrise, quand tu entends politique, ça... tu te dis quoi? Tu te dis urne, élection, vote,
ouais,
président?
Voilà, c'est ça, exactement.
Ouais. Ouais. Ok, c'est... ça marche. Joanne?
Bonne question. Je dirais la gestion du quotidien. Pas forcément que au national, l'européenne, la gestion du quotidien aussi, c'est collectivité territoriale, vraiment le quotidien, la gestion du quotidien.
La gestion du quotidien, ouais. Barberiche.
Bah, c'est le fait de gérer les intérêts du pays et des individus qui constituent ce pays.
Ok, on va me faire saliver en dernier parce que c'est trop facile. Ouais. Ouais.
moi, j'irais gouvernance. Lien, relation entre les individus et les institutions, enfin, gouvernement.
Ok, Salima.
Prendre en charge les destins individuels dans un collectif.
Oui, c'est ça qui nous intéresse. Ce qui va nous intéresser ici dans Parentalité, ce n'est pas d'avoir forcément des définitions institutionnelles, celles sorties du Larousse, mais vraiment de se dire que si on prend la vision que chacun d'entre nous a de ce mot, bah, on est au plus près de ce que tous les auditeurs peuvent penser en termes de politique. Donc on va se dire ça. Avez-vous un attrait particulier pour la politique? Si oui, comment, pourquoi? Et du coup, je commence par toi, Stécie, parce que t'as dit, moi j'en ai pas. J'ai pas forcément d'appétence pour ça. Et justement, ce qui est intéressant, c'est de savoir, t'as quel âge, Stécie?
27 ans.
27 ans. C'est-à-dire que toi, Stécie, 27 ans, aujourd'hui, quand on te dit politique, la première chose que tu dis, c'est j'ai pas d'attrait particulier. Est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce que c'est quelque chose qui t'est pas du tout familier? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel t'as des a priori, des préjugés? Ou est-ce que ce que t'en vois ne te donne clairement pas envie?
Bah, déjà parce que je ne connais pas plus que ça.
Ouais.
Voilà, c'est, comme j'ai dit, ce n'est pas un sujet que je maîtrise. Et quand je ne maîtrise pas, souvent, j'écoute.
Mmh.
Et donc, je vois des choses des fois passer sur TikTok ou bah, des fois les élections présidentielles. Mmh. Donc là, ça va m'intéresser puisque, bon, il faut s'y intéresser puisque de moi-même, honnêtement, je ne m'y intéresse pas plus que ça. Et voilà.
Pour toi, Zakaria aussi, quand vous entendez politique, tout de suite, c'est un attrait avec les élections, le président, etc. Ou est-ce que des fois, dans des choses qu'on fait, bah, y a un peu de politique? Par exemple, est-ce que le fait aujourd'hui d'ouvrir une école alternative qui va proposer des diplômes allant du CAP aux études supérieures comme Ueno, est-ce qu'il n'y a pas quelque part de la politique derrière ça?
Si.
Pourquoi?
Si.
Si, il y a forcément de la politique, parce que même quand on ouvre une école, on est soumis à des lois, on est soumis à des règles. Donc on passe forcément par de la politique. Après, niveau politique, je ne pense pas que l'école prenne de parti particulier.
Mmh.
Donc elle est vraiment ouverte par rapport à tout. Donc de ce côté-là, de la politique, par rapport à tout ce qui est parti, tout ce qui est engagement, elle n'est pas plus concernée que ça. Elle ne regarde pas, le physique des gens, elle regarde vraiment la personnalité et les envies. Mais oui, dans tous les cas, il y a forcément de la politique, parce qu'on est forcément soumis à des règles et des droits. Même par rapport à nous qui sommes en alternance, on est soumis à des lois, on a des droits, on a des devoirs. Donc oui, il y a forcément.
Ok. Les parents les jeunes et un peu plus expérimentés, qu'est-ce que vous en pensez? Quand on vous dit politique, est-ce que vous avez un attrait particulier et comment il se manifeste?
Moi j'en ai un. Je rigole bien parce que j'ai vraiment l'impression que c'est un grand cirque.
Ah ouais?
Ouais.
Vas-y, raconte-nous.
Non, moi j'ai pas forcément d'attrait pour la politique, mais j'aime écouter les politiques.
D'accord.
En fait, j'aime regarder leur technique. C'est-à-dire que la politique, moi, je trouve que c'est quand même théâtral. Parce que j'ai l'impression que les hommes politiques et femmes politiques sont souvent dans des postures. Et donc, j'analyse.
Ok, donc toi, ça te fait marrer, toi?
Ouais,
toi,
moi, je rigole.
Quand
moi.
T'as envie de rigoler, t'as
ouais, ouais. Et quand
c'est na.com.
Non, mais quand je suis chez moi, par exemple, je suis toujours sur les chaînes info et on me dit tout le temps, mais qu'est-ce que tu fais? Ils disent n'importe quoi. Je dis, ouais, mais non, moi, ça me fait rire. Parce que j'analyse et comme j'aime beaucoup le débat, j'aime vraiment le débat. Et bah, j'analyse en fait les techniques de chacun. Parce que je trouve que chacun a des techniques. Tout ce qui est éloquence aussi, j'aime bien. Donc, pour moi, c'est un grand divertissement.
Ok, ça marque. Johan,
comment?
Un art.
Voilà.
Un art.
Voilà. Un art.
Ok. Johan, Salima, Gwen.
Non, moi, la politique, ça m'intéresse. D'une part, parce que. Parce que je suis citoyenne, parce que je suis française, parce que je suis maman, parce qu'aujourd'hui, bah, j'ai créé une école. Donc oui, ça m'intéresse parce que c'est quand même... la politique, c'est des décisions prises sur notre pays quand même. Mmh. Et je m'y intéresse plus particulièrement pour l'éducation, forcément. Je suis un peu plus attirée par ça. Mais le tout m'intéresse parce que c'est des décisions pour notre vie, pour nos enfants. Et donc, oui, il faut être... Faut nous s'y intéresser aussi.
Ok. Mmh. Joanne Salima.
Pour moi, c'est la suite logique de mon engagement de un peu plus de 10 ans dans mon quartier des 3000 à Aulnay.
Tu nous racontes, parce que tout le monde n'était pas avec nous ce matin.
Oui, c'est vrai. Donc, quand j'étais beaucoup plus jeune, même plus jeune que vous, j'ai monté une association d'aide aux devoirs dans ma cité des 3000 à Aulnay-sous-Bois pour aider les plus jeunes à faire leurs devoirs. J'étais à peine plus jeune qu'eux. J'avais entre 16 et 23 ans, je crois, ou 16 et 26 ans à la fin, mais voilà. Et donc, pour moi, c'est cet engagement-là que je continue à poursuivre en politique. D'ailleurs, je vais faire une petite dédicace, puisqu'on parle des 3 000 à Aya Nakamura, qui vient de mon quartier et qui subit une vague de haine et de racisme. Donc, juste pour lui dire qu'elle a mon total soutien et qu'elle est la fierté de la France pour 2024. Donc voilà, mon engagement, c'est ça. Et la politique, pour moi, c'est juste une continuité de ce que je faisais au niveau associatif.
Joanne,
moi, en fait, j'ai été baigné dedans très jeune. Et c'est une histoire un peu familiale. J'ai un grand-père qui a été résistant communiste, qui est mort en camp de concentration. Donc j'ai baigné là-dedans avec une famille très marquée à gauche. Et donc, dans toutes les luttes, je suis allé en manif avec mes parents très tôt, etc. Okay. Donc j'ai vraiment baigné dedans, pas dans un côté politique de parti, de pouvoir, etc. Vraiment plutôt un engagement pour des luttes, pour des droits. Voilà, okay. J'ai été sensibilisé à ça très jeune. Et je rejoins ce que tu disais tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a un côté théâtral. Il y a un côté qui peut parfois être complètement déconnecté de la réalité. Et après, c'est aussi dû, et je pense qu'il faut qu'on s'interroge là-dessus, et aujourd'hui, c'est intéressant d'échanger ça en plus avec des jeunes. C'est aussi dû aux médias, c'est aussi dû aux réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la parole du politique, quelqu'un qui va faire un super bon travail, qui veut en parler, sincèrement, ça n'intéresse pas grand monde. Mmh. Aujourd'hui, on est dans des positions très clivantes. Et ce qu'on souhaite, c'est avoir des positions clivantes, la phrase qui tape, la phrase qui va aller attaquer l'autre, etc. Et nous, on l'a vu avec Salima sur, par exemple, le Tour de France des lycées. On a essayé de valoriser cela et valoriser le fait que plus de 1200 jeunes ont participé à l'Europe de demain. C'est-à-dire qu'ils avaient des idées pour l'Europe de demain. Sincèrement, les médias qui s'y sont intéressés...
Ouais, ça intéresse personne, en fait.
Ouais, tout à fait. Je reviens sur une phrase. Une fois, c'est Abdelmalik qui avait dit ça sur un plateau. Je trouvais ça génial. C'est l'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse. Et aujourd'hui, dans les médias et dans le monde politique, on est là-dessus. C'est-à-dire qu'on préfère faire du bruit sur quelque chose qui est négatif parce qu'on sait que ça va vendre, autant politiquement qu'au niveau médiatique, que plutôt sur le travail de long terme. Et en fait, des choses positives, il y en a plein. Il y en a beaucoup plus que des choses négatives. Mais on se concentre sur ça.
Mais je le rejoins parce qu'aujourd'hui, la politique, on est un peu sur du buzz. Et ça en devient très triste parce qu'effectivement, de belles choses qui peuvent être faites et qu'on ne va pas voir. Et aujourd'hui, on met en avant vraiment du buzz et des choses qu'on n'a pas vues avant. Et la politique, elle n'a plus la même image qu'avant.
Et est-ce que du coup, ça ne nous éloigne pas, et je me retourne vers vous, jeunesse aussi, est-ce que ça n'éloigne pas du message de fond? Ça veut dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'on arrive à entendre le message de fond, ne serait-ce qu'à reconnaître les gens, quelle étiquette, quelles sont leurs valeurs? Tout à l'heure, Salima, tu parlais de squelette, mais pourquoi tu fais de la politique? Est-ce qu'aujourd'hui, le fait que les médias, les réseaux sociaux et les fake news prennent le dessus, est-ce que du coup, ça ne nous perd pas?
Si.
Parce que, dis-nous.
Bah, si, parce qu'on ne sait plus vraiment... en fait, il se passe tellement de choses, des rumeurs, qu'on ne sait même plus, en fait... quoi écouter, ce qui en vaut réellement la peine, et franchement, moi, je suis perdue dans tout ça. Le fait d'être perdue dans tout ça, pour être honnête, il n'y a que les élections présidentielles que vraiment je vais regarder, que je vais suivre, mais tout le reste, je vais... Le maire de ma commune, si, si.
C'est pas très grave, enfin selon toi, c'est plus important d'aller voter par exemple pour le président que pour le maire de ta commune selon toi?
Non, du tout. Après moi, avec le maire de ma commune, en fait, il s'est passé quelque chose qui fait que le maire de ma commune, en fait, je suis vraiment, entre guillemets, derrière lui.
Okay.
Parce que pendant le Covid, j'ai été bloquée aux Philippines et en fait, c'est le maire de ma ville qui m'a rapatriée.
Ok, mais comme quoi, ils ont quand même un impact.
Exactement, parce que voilà, le reste, on nous a pas écouté rien. Et du coup, grâce au maire de ma ville, vraiment, j'ai été... rapatriés. Et en fait, c'est vrai qu'à partir de là, j'ai essayé de... Bah, je l'ai suivi sur Instagram, j'ai essayé de voir ce qu'il faisait, etc. Et après, bah, à partir de là, ouais, c'est là que je me suis intéressée.
On va dire. Est-ce que tu dirais que c'est parce qu'en quelque sorte, il y a une rencontre? Enfin, oui. Même si ce n'est pas une rencontre physique dans un premier temps, mais en fait, quelqu'un qui s'intéresse réellement à toi et qui débloque une situation... va susciter un intérêt, un engagement derrière.
C'est pas forcément, enfin c'est pas comment dire, c'est pas vraiment, enfin si c'est quand même à cause de ça. Mais en fait même quand il m'a répondu, je me suis dit, il m'a dit je reviens vers vous. J'ai dit bon allez, c'est des paroles en l'air. Ou même pas 30 minutes après, il m'a contacté, il m'a dit ok, on voit ça, on voit ci. Et après c'est là que je me suis dit quand même oui, il s'intéresse aux gens de sa ville et c'est pas des paroles en l'air parce qu'il y avait d'autres personnes avec moi qui ont contacté leur mère à eux, qui eux n'ont pas eu de, okay. de réponse.
Ouais, merci pour ce témoignage et puis du coup bravo au maire de cette ville parce que le Covid ça a été un moment particulièrement difficile. Oui. Et si ça t'a permis de revenir sur le territoire, c'est bien. Les autres, qu'est-ce que vous en pensez justement de...
Alors je trouve très intéressant ce qu'elle raconte parce que du coup ça démontre que les politiques doivent être reconnectées avec la réalité, avec leurs citoyens. Et c'est peut-être ce qu'on reproche dans le côté un peu théâtral. C'est beaucoup de politiques, mais il y en a aussi beaucoup d'autres qui sont vraiment connectés. Mais ceux-là, on ne s'y intéresse pas. Et on parlait des médias, mais c'est incroyable comment parler de quelque chose de positif, de montrer, par exemple, sur le Tour de France des lycées, où j'ai donné la parole aux lycées professionnels sur l'Europe, et le travail incroyable que ces jeunes, ces 1200 élèves ont fait. Et aucun journal n'a voulu publier ça. Si j'étais venue avec 1200 jeunes qui ont mis le feu à je ne sais trop quel centre commercial, là, il y aurait eu du monde. Et ça, je trouve ça hyper dommage. Et ça rejoint complètement ce que vous dites, hein, mademoiselle, c'est qu'il y a un problème de déconnexion. Et puis, un gros problème, je pense, avec les médias. Du coup, là, on est dans un média, donc c'est qui vont former de nouveaux médias. Et peut-être. Parce que c'est un vrai dilemme. Hein, pendant 5 ans, on se demande, en tant que femme politique, est-ce que je fais comme tout le monde et je fais du buzz sur tout et n'importe quoi, ou est-ce que je continue sur ma ligne et peu importe, tant pis si je ne suis pas élue après, en tout cas, j'aurais fait des choses positives. Bon, je me suis tenue à ça. On a pas essayé de faire du buzz sur n'importe quoi. J'ai continué à faire. Bon, ben, on verra bien ce que ça portera, mais si ça peut donner... des exemples, parce que c'est un vrai dilemme, parce que sinon on disparaît, en fait. Les personnes qui font des choses bien sur le terrain finissent par disparaître, on les oublie, et arrivent à leur place des personnes qui sont prêtes à faire du buzz. Donc comment on inverse les choses, et c'est peut-être ça que vous pouvez nous apporter en tant que jeune. Comment on inverse cette machine ? C'est difficile, hein ?
Est-ce que vous avez des idées, en tout cas ? De ce qui pourrait aider et faciliter le fait d'inverser cette machine et ce regard.
En fait, le problème, c'est que là, on tend plus vers un système qui se base sur le fait que tout va vite. C'est-à-dire que le lendemain, demain, je peux faire le buzz là, dans 2 jours, je vais sûrement être oublié. Donc, ça qui est dommage. Et les personnes qui ne jouent pas sur le buzz, ils vont avoir trop de mal, en fait, à pouvoir se faire connaître, pouvoir imposer leurs idées. Pas imposer, mais proposer, plutôt. C'est pour ça, en fait, il n'y a pas de technique miracle pour juste inverser la machine. Il faut être constant. Moi, je pense qu'il faut être constant, en tout cas, et qu'il faut vraiment essayer de proposer les meilleures solutions. C'est peut-être pas tout le monde qui va nous écouter parce que justement, on n'essaye pas de faire le buzz, mais je pense qu'à force de persévérance, tout peut passer.
Ouais, mais moi, je trouve que le problème, c'est pas que ça, c'est aussi les gens maintenant, ils aiment beaucoup le drama.
Aussi.
Ils aiment beaucoup le drama, ça veut dire que ah bah là c'est pas trop du drama, ok j'ai entendu, mais bon, ah bah là il y a du drama, ah bah là je vais écouter, ah c'est drôle t'as vu, et après ça envoie, ah t'as vu ce qui s'est passé. C'est pas que la faute des gens entre guillemets qui font les choses bien et qui font pas de drama, mais c'est les gens qui regardent aussi.
Après ils sont victimes un peu de...
C'est la consommation.
Bah oui, non mais oui, complètement, mais malheureusement c'est le monde, il est devenu comme ça.
C'est-à-dire que c'est lié à la consommation.
Moi, je pense que moi, je rejoins un peu Zacharia en disant qu'il faut être constant et il faut croire en ce qu'on fait, le fait de faire le tour des lycées, le fait de monter des écoles alternatives, le fait de se dire bah voilà, on veut pas faire le buzz, mais on fait des choses, on fait des vraies actions. Et je pense qu'il faut rester dans ça et se dire que moi, je pense que ça va revenir à la normale. Et en faisant ce genre de choses, il faut sensibiliser les jeunes, comme vous faites, et c'est très bien. Et comme nous, on doit faire, par exemple, faire les jeudis de la rencontre qu'on faisait, et peut-être, comme on disait, faire des jeudis de la politique, et mettre les jeunes plus dans cette politique, mais sans pour autant faire le buzz. Et moi, je crois vraiment en ça. Je pense que à un moment donné, il faut choisir aussi les médias aussi. Ça veut dire que je pense qu'il y a des médias qui peuvent mettre en avant les bonnes choses et pas ceux qui cherchent le buzz en fait sans cesse. Et c'est dommage parce que effectivement, moi, ce qui me peine, c'est d'entendre notre députée européenne qui dit qu'elle a fait le tour des lycées avec 1200 jeunes et que personne ne l'a diffusé. Alors que voilà, je pense qu'il y a des médias qui peuvent le diffuser et je trouve ça quand même malheureux.
J'ai ma théorie sur ça.
Et en plus, pour les enfants, déjà un, pour les jeunes qui ont participé, c'est valorisant, mais
bien
pour
sûr.
Les jeunes qui regardent, qui ne savent pas trop quoi faire, etc., et qui pensent que c'est tellement éloigné d'eux, c'est aussi très important de pouvoir avoir une représentation. Nous, on en parle beaucoup en disant qu'on a manqué de représentation dans certains domaines.
Bah oui.
Et quand les jeunes le font et qu'ils ne sont pas mis à l'honneur, bah en fait, c'est comme si c'était un contre-message. Tu as participé à quelque chose de fort, d'impactant. On était tous réunis autour de toi pour te dire mais que c'était impactant et fort pour l'avenir. Mais en même temps, ça n'intéresse pas la société et ce n'est pas diffusé. Mais par contre, moi, dans le même contexte, on va me voir.
C'est très beau ce que tu dis, c'est très beau. C'est très beau, c'est bucolique, c'est utopique. Utopiste, pardon. Mais moi, je voulais revenir sur le fait que peu ou pas de médias aient relayé tes actions concernant le tour de France des lycées. Est-ce que les médias ne se sont pas dit « elle vient des 3000 » et le fait d'aider, ou en tout cas de mettre à l'honneur des lycées professionnels, c'est pas logique, donc c'est pas glamour. Donc ça ne nous intéresse pas.
Bonne question.
Du coup, même on peut rallier les deux parce que aujourd'hui il y a aussi des initiatives qui sont relayées par les médias, de gros médias sur des écoles alternatives qui pallient. Et une école comme Weno qui fait ses preuves également, elle n'est pas médiatisée non plus. Est-ce que ça non plus c'est pas glamour une école qui aide les jeunes à s'en sortir? Pour rester dans le même.
Je vais laisser Salim répondre après.
J'ai vu les yeux de Salim, elle a fait
comme ça. Et Joanne, elle a fait ça.
J'ai pas été élue pour être glamour, moi j'étais élue pour avoir des actions et avoir des conséquences sur le terrain réel. Donc j'ai pas envie d'entrer dans ce jeu infernal de glamour, pas glamour. J'ai vraiment pas envie d'aller là-dessus. Moi ce que je dis à chaque fois, alors il y a très longtemps, il y a eu un événement près de mon lycée, vraiment longtemps. Une jeune femme qui s'est pris une claque, une jeune fille d'origine maghrébine, qui s'est pris une claque par son frère à l'entrée du lycée. Et là, il y avait des journalistes, mais en veux-tu, en voilà. Et il y a une journaliste connue à cette époque-là qui faisait des huis clos comme ça. Et elle m'invite parce que j'étais un acteur reconnu dans le quartier. Donc elle m'invite à venir pour pouvoir faire cette émission. Mais avant, il fallait qu'elle me questionne. Donc je suis reçue sur Paris et on veut absolument me faire dire que tous les garçons d'origine arabe sont violents avec leurs sœurs. C'était ça le thème de la réunion. Et j'y suis allée, on était allés à deux. Et je lui dis non mais attendez, c'est pas ça. Son frère, enfin, c'est pas ça la vraie histoire. Elle fumait du shit, son frère l'a chopé en train de fumer du shit, il lui a mis une claque, voilà, enfin, c'est bon quoi, stop, il n'y a pas d'autre histoire. Ben, non, elle voulait absolument que je parle de mes frères soi-disant violents. Mais moi, mes frères ne sont pas violents. C'était incroyable. Il fallait que je m'invente une histoire pour être dans le flot de son émission. Et j'ai refusé. J'ai dit non, mais moi, je suis désolée. Ce n'est pas ça l'histoire. Les deux jeunes gens habitent dans mon quartier. Je connais l'histoire. Ça s'est passé devant mon lycée. Elle fumait du shit. Il n'a pas accepté qu'elle fume du shit. Il lui a mis une claque. Il n'aurait pas dû. D'accord, ok. Mais ce n'est pas du tout ce que vous racontez. J'ai pas été invitée à participer, mais ils ont trouvé d'autres personnes qui sont venues me dire à ma place.
Et même tu aurais été invitée, peut-être qu'on aurait coupé cette partie.
En plus, oui. Mais j'ai pas été invitée, mais ils ont trouvé des personnes qui l'ont dit. Et moi, je suis contente de ne pas être ces personnes-là. Et d'être restée, tant pis, j'ai pas été médiatisée, j'ai pas été à la télé, etc. C'était une émission assez, assez connue. Mais maintenant, encore avec le recul, je suis fière de ne pas avoir joué le jeu et j'ai pas envie de jouer ce jeu-là. Moi, je, vous l'avez dit, je, vous dites ça va revenir. Moi, j'aimerais bien savoir comment. Vous avez parlé, tu as parlé de débat tout à l'heure. Il n'y a plus de débat. Où est-ce qu'il y a des débats? Il n'y a vraiment plus de débat. Aujourd'hui, c'est du slogan. C'est à celui qui va dire. Et puis, vous avez parlé de buzz et on l'écoute. Vous imaginez le buzz qu'on écoute le jour des élections et on va voter pour quelqu'un qui va nous entraîner dans le je ne sais trop quoi, à déconstruire notre démocratie. Vous voyez ce que, où, jusqu'où ça peut emmener? Un buzz d'une personne qui va faire un buzz le jour ou la veille des élections, parce qu'on n'a pas le droit de le faire, la veille des élections, et hop, on le suit parce que c'est génial. Ça, ça fait peur, hein. En tout
Après,
cas, moi, ça me fait peur.
C'est une
communication
aussi.
Oui, non, mais ça, je sais bien, mais moi, ça fait peur.
C'est pas le plus éthique, mais ça reste une technique de communication qui marche. Et qui
mais les conséquences, mon Dieu.
Les conséquences sont.
L'éthique,
sont
on n'en parlera plus. Hein.
Mais ça reste. Les débats présidentiels au moment des élections. Je suis persuadé que derrière des équipes, ils disent essaye de lâcher une petite vanne vite fait, histoire que ça fasse un peu de tour sur Twitter et tu gagnes. C'est sûr et certain. Ça,
oui, il y a, y a je ne sais plus quel homme politique qui est sorti et qui a dit j'ai été bon.
Je sais plus.
J'ai vu ça il n'y a pas longtemps.
Mais même, ça remonte à longtemps. Même, je me rappelle un débat à l'ancienne, il y a très longtemps, entre François Mitterrand et Jacques Chirac, qui avait dit aujourd'hui, je ne vais pas vous appeler Premier ministre, je vais vous appeler Monsieur Mitterrand, et, etc. Ça avait fait le buzz et jusqu'à aujourd'hui, on l'entend encore.
Oui. Mais il y avait quand même, à l'époque, encore un peu de fond.
T'es cultivé.
Aujourd'hui, on n'arrive pas. Bravo.
Pour utiliser vos termes, t'as la ref. Hein.
Gwen, tu voulais répondre, je crois.
Oui, pour dire que moi, ça fait 10 ans que je suis dans la formation, dans l'éducation. J'ai vu des choses, j'étais formatrice aussi dans la prison de Villepinte. J'ai travaillé à la Chambre des métiers de Bobigny, qui est quand même très politisée, quand même. Moi, comme je dis, je le redis, moi, je veux vraiment croire en ce qui se passe et me dire que avec le temps ça va changer, mais je pense aussi qu'il faut déconstruire pour reconstruire, parce que avant tout ça, parce que là on parle de plein de choses, mais déjà on ne respecte même plus même les individus. Je comprends, on en a marre, etc., mais on ne respecte même plus la politique, on respecte même plus le président. Aujourd'hui, quand on en vient même à gifler un président, voilà, on sent que voilà, il y a plus de respect, il y a plus rien. Et je pense qu'à un moment donné, faut déconstruire pour reconstruire et se dire que déjà on doit respecter, peu importe hein, qu'on soit pour le président ou pas, il a été élu. À partir du moment où il a été élu, on se doit de respecter sa fonction. Et je pense que déjà, alors je parle vraiment que de la France, hein, on parle de là où on est. Je parle de la France. On a un problème avec ça. On a plus de respect pour des personnes qui nous gouvernent. Et c'est dur après aux jeunes de dire qu'il faut respecter ou il faut écouter la politique. Parce que je suis désolée, moi je suis jeune, je vois qu'on gifle notre président, je vois qu'il perd il est plus crédible du tout. Comment rallier les jeunes à la politique quand il y a tout ça qui se passe? Quand on voit qu'à l'Assemblée, y a du buzz, c'est celui qui va le faire plus rigoler la galerie, qui va être vu le lendemain le plus à la télé ou qui va passer, je dirais pas le nom, mais sur TPMP, voilà, chez une personne. Je trouve que là, on est vraiment déconnecté totalement. La politique, elle a plus de sens en fait aujourd'hui.
Alors, je vais donner mon expérience contrairement à ce qui se passe à l'Assemblée nationale, au Parlement européen. Les députés européens ne sont pas connus. Et c'est peut-être parce que justement, on n'est pas dans le buzz. Au Parlement européen, c'est pas du tout le même fonctionnement que le Parlement français et d'autres parlements d'ailleurs des États membres. Nous, on travaille entre nous à construire un compromis. Donc, on est dans la négociation sur tous les textes. Toi, tu représentes telle partie. On arrive chacun avec ce qu'on veut mettre dans ce texte-là. On arrive avec nos lignes rouges, ce qu'il ne faut pas dépasser, etc. En deçà de ça, je ne peux pas aller, etc. Et ensuite, on négocie, vraiment comme on est autour de la table, dans plein de langues d'ailleurs, dans plusieurs langues, et on négocie pour avoir un compromis. Et c'est ce compromis-là qui va passer au vote. Et ce compromis n'est pas compromission, c'est-à-dire qu'on ne va pas jusqu'à laisser tomber ce qu'on a envie de défendre, chacun défend. Et on arrive avec ce document. Chacun le défend parce qu'on y a participé. Et du coup, il n'y a jamais de buzz. Sauf les seuls qui font du buzz, ce sont ceux qui n'ont pas participé au compromis. Et ce sont ceux que vous voyez sur TikTok, jeune homme. En passage. Ils n'ont pas participé au compromis. Donc, eux reprennent le compromis et disent ça, ceci, ça, ça, c'est pas bon, c'est inadmissible, etc. Sauf que nous, on n'est pas là-dedans. Et quand vous voyez les passages où on parle de ce compromis, vous avez tous ceux qui ont participé à ça, qui viennent de manière très posée dire, ben voilà, nous, on a défendu ça, puis chacun y met ce que son groupe veut défendre en avant, et ça pose aucun souci. Et vous avez ceux qui n'ont pas participé au compromis, qui pourtant sont payés au même tarif que nous, mais qui ne viennent pas travailler. Eux se permettent de sortir de là et de faire du buzz. Et alors que c'est vraiment pas l'essence première. Et ce qu'on voit de plus en plus, c'est que ces personnes-là, ces groupes politiques-là, risquent de prendre de plus en plus de place et finalement casser cette idée de compromis. Et on va se retrouver au Parlement européen à avoir aussi des buzzers.
Ouais. Et ces personnes-là ne sont pas impliquées.
Et puis,
si je peux me permettre, les personnes qui font du buzz ne sont pas impliquées. Ils ne sont pas impliquées dans la vie des individus, ne sont pas impliquées dans la vie des jeunes. Et alors que nous, je suis désolée du terme, mais nous, on est dans un combat. Nous, on veut vraiment aider. Enfin, moi, particulièrement, moi, je veux aider ces jeunes de quartier populaire, ces jeunes qui sont décrocheurs, ces jeunes qui veulent se réinsérer, s'insérer ou se réinsérer. Et quand on voit ces personnes qui font du buzz et qui ne sont pas du tout impliquées, qui ne connaissent pas forcément ce qu'on vit. Bah ouais, on est déconnecté.
Ouais. Ouais, après, j'allais revenir sur une question d'exemplarité et demander, du coup, ça va vous permettre de réfléchir. Est-ce qu'on parle politique à la maison? Est-ce que les parents en parlent? Et quel est l'impact aussi de, en fonction de ce que mes parents pensent de la politique et l'implication ou non, la connaissance ou non qu'ils en ont, ou des fois les blessures? Parce que si moi je me reconnais pas, si moi je suis meurtri, si moi j'ai une mauvaise expérience avec la politique dans ce pays, qu'est-ce que je véhicule et comment, du coup, peut-être ça se transmet de façon intergénérationnelle. Donc ça, ça va être la question pour vous. Mais juste avant, j'aimerais t'entendre, Joanne, sur... Tu disais que toi aussi, tu es impliquée, associativement parlant, du côté de Melun. Est-ce que tu as l'impression que les initiatives que vous portez avec la jeunesse, eh ben, elles vont intéresser, justement, les médias, la presse, elles vont être relayées pour, justement, valoriser aussi tout ce qu'il y a de bon dans les quartiers? Parce qu'en fait, on parle d'une minorité bruyante, mais la majorité, elle est invisibilisée, en fait.
Alors, sur les médias locaux, je trouve, oui. C'est-à-dire que sur la presse locale, voilà, le journal du département, le journal de la ville, etc., je trouve qu'il y a un vrai travail de journaliste d'aller chercher autant l'info négative que l'info positive. Mm. Alors, bien sûr, les faits divers, c'est une rubrique importante, tout le monde lit. Pour autant, je trouve que c'est peut-être l'échelle du média où on va le plus parler des initiatives intéressantes et positives. Et c'est un bon maillon, et c'est un maillon qu'il faut savoir utiliser pour justement parler de la création d'une école, parler d'un Tour de France des lycées, parler de ce que tu fais, Aminata aussi. Et voilà, l'échelle locale, en tout cas le journal local, moi je trouve qu'il joue le jeu, vraiment. Et c'est peut-être le seul qui joue encore le jeu. Après, il est peut-être moins dans cet effet de surcommunication. On est dans une société de surcommunication et sur un rythme, surtout, qui est complètement dingue. C'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on est dans un rythme effréné de l'info. Au final, qu'est-ce qui se passe derrière? Rien de concret. Et l'effet parfait, c'est Trump. C'est-à-dire que Trump, il a fait tous ses buzz, tout son truc. En 4 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Rien du tout. Par contre, il a été président pendant 4 ans. Donc, c'est 4 ans de perdu pour tout le monde, voire même plus que perdu. Voilà, il risque de revenir. Et on voit bien, en fait, que ce côté média et ce côté politique, dans un rythme effréné, dans un truc très clivant, c'est-à-dire que bloc contre bloc, en fait, ça vient d'une société qui se fragmente aussi. Or, pourtant, la politique, c'est comment faire société ensemble. La première question, c'est celle-là. Et aujourd'hui, cette politique, elle mène à ne plus faire société ensemble, à avoir une société fragmentée. Et moi, je suis plutôt super inquiet sur ça. Je trouve qu'aujourd'hui, on ne déconstruit pas ça. Et pourtant, l'éducation aux médias, c'est-à-dire ce que vous faites aussi ici, c'est super important. C'est-à-dire savoir lire le message qui est en train d'être dit. Est-ce que c'est quelque chose de vrai? Est-ce que je peux aller chercher une source pour vérifier si c'est vrai? Si on ne fait pas ce travail-là sur la jeunesse, sur l'éducation à la citoyenneté, l'éducation politique aux médias, moi, je suis super inquiet pour l'avenir. Et je n'ai pas peur de le dire. Il y en a plein qui disent, voilà, on est en 2024, il faut vivre avec son temps. Je ne suis pas sûr qu'on soit dans un truc où on va vers le progrès. J'ai peur sur le côté faire société.
Et puis, c'est important ce que tu dis aussi, dans le sens où aujourd'hui, certains te vont, en tout cas, te taxer de mauvaises intentions, parce qu'à un moment donné, tu fais rencontrer jeunesse, école, association et politique en essayant de te coller des étiquettes, alors que finalement, je pense que pour que la jeunesse puisse se saisir, avoir un esprit constructif et critique, il faut qu'il rencontre un maximum de personnalités politiques avec forcément des valeurs. Ça veut dire que c'est pas parce qu'il faut leur faire donner, il faut leur donner l'envie de choisir. Et peu importe vers quelle étiquette tu tends, finalement, tu fais ton acte citoyen, tu votes, tu sais de quoi il s'agit. Mais pour autant, effectivement, quand tu vas avec des jeunes qui ne sont pas encore aguerris faire rencontrer des acteurs de terrain politique, on va les choisir en fonction des valeurs qu'on prône et qu'on porte. Et c'est pour ça justement que la présence de Salima aujourd'hui, elle n'est pas anodine. Ça veut dire qu'à travers ne serait-ce que ce projet de la tournée des lycées de France, elle montre un engagement qui est en adéquation avec le programme de Ueno, les étudiants et nous-mêmes, ce qu'on peut faire à côté. La question, c'est est-ce que chez vous, ça parle politique pour les jeunes aujourd'hui? Et pour les jeunes un peu plus expérimentés, est-ce que vos parents étaient engagés politiquement? Est-ce que ça parlait politique chez vous? Donc, Joanne, tu as un peu commencé à y répondre, mais tu vas pouvoir approfondir. Qui se lance? Politique, maison, éducation, qu'est-ce que ça en dit?
Alors, moi, j'étais pas dans une famille politisée. Il n'y avait pas de politique au sens... On regardait le journal de TF1 ou de France 2 à l'époque, parce qu'il y avait énormément de chaînes, mais c'était pas très politisé. D'ailleurs, quand je me suis lancée en politique, ma culture politique n'était pas très étoffée. Donc, c'est pour ça que je me suis jetée à l'eau et ensuite, j'ai appris à nager à l'intérieur. Ce qui fait que j'ai changé de parti parce que ça semblait correspondre de l'extérieur à ce que je voulais faire et ça ne l'était pas, donc j'ai quitté et je suis partie. Et c'est pour ça que j'ai un parcours comme ça politique qui est changeant, quoi. Je suis allée, bon là j'y suis et je m'y sens bien et je pense que j'ai trouvé ma famille politique. Mais c'est vrai
mais
que...
Mais t'as hésité
j'ai hésité, je ne savais pas trop. Alors soit on se fait une culture politique et on prend du temps parce qu'on ne l'a pas eu plus tôt et on s'engage dans un groupe politique, ça met plus de temps. Soit on se dit, je me jette à l'eau. Et puis on verra bien, ça s'embête pas trop mal, ça reste, je vais pas me noyer là, ça devrait aller. Et à l'intérieur, je choisis ma famille politique. Et c'est ce que j'ai fait. Et je pense que les deux se valent, mais c'est vrai que j'avais pas une famille politique. Par contre, mes enfants sont plus politisés.
Ah d'accord. Et ouais. Est-ce que tu penses que ça a un impact avec justement le fait que toi, tu sois une femme politique aujourd'hui, que tes enfants soient plus politisés?
Ah oui, c'est certain. C'est certain. Je vois qu'ils viennent beaucoup plus qu'avant me parler de politique, demander mon avis sur telle chose, dire oh, tiens, j'ai entendu ça, je suis pas d'accord. Parfois dans la provoque aussi.
En plus, toi, tes enfants, rappelons-le pour les auditeurs, c'est qu'ils ont entre 18 et 23 ans, je crois.
Ouais, c'est
donc
ça.
C'est des jeunes adultes. Oui, donc c'est vraiment le moment où on commence à se questionner aussi. D'accord. Quelqu'un d'autre voulait réagir? Ça parle politique à la maison, ça parle pas? On est d'une famille où il y a un engagement ou pas?
Moi non, plus mon père, mais après je me souviens que de toutes les élections présidentielles. C'était vraiment ça qu'on voyait dans la politique dans ma famille. Sinon, non, les parents n'étaient pas totalement dans ça. Après, avec mes enfants, si on en parle, et même s'ils sont jeunes, hein. C'est plus celui de 10 ans et celle de 14 ans. C'est plus des choses qui se passent à la télé. On va en discuter. On a plus la liberté de parole qu'avant avec les parents, où on n'avait pas trop cette facilité de parler. Nous, avec nos enfants, on les laisse vraiment parler, échanger et surtout qu'on puisse savoir ce qu'ils ont compris. C'est ça qui est important, en fait.
Et les emmener aux urnes. Moi, j'adore ce moment des élections, juste pour emmener les filles aux urnes. Et encore, avec le temps... Ils acceptent moins, elles grandissent. Donc, dès lors qu'ils lisent, ils ne veulent plus que les enfants rentrent dans l'urne, alors que moi, je trouve que c'est par là, en fait, que tout commence. Et c'est au moment où ils lisent que ça devient intéressant, qu'ils passent la porte, le rideau, avant de pouvoir mettre leur propre bulletin. Est-ce que vous avez des exemples, quatre aussi?
Moi, c'était pas très politisé à la maison, mais moi, j'ai commencé à m'intéresser à la politique grâce à Bernard Tapie.
Ah oui, raconte.
comme je suis un fan de foot... Et du coup, c'était une personnalité marquante de l'époque. Donc, dès lors que Bernard Tapie est rentré en politique, je m'y suis intéressé. Et comme lui, il était vraiment dans... Tout à l'heure, tu parlais de choses marquantes. Johan, tu parlais de punchline. Et lui, c'était le roi.
Ouais,
C'est le roi de la punchline. Donc, du coup, moi, j'ai trouvé vraiment ce côté attractif de la politique au moment où Bernard Tapie est rentré dans la politique.
C'est-à-dire que toi, tu t'intéresses pas à la politique d'une façon où ce que tu aimerais savoir comment ton pays est dirigé, c'est vraiment...
Non, en fait, parce qu'après, tu t'intéresses au fond, mais il faut forcément quelque chose qui t'oriente vers. Tu comprends ? Après, c'est les prétextes en réalité. Et donc moi, c'est Bernard Tapie parce que moi, la politique, je la trouvais chiante. Les débats de l'époque, ce n'étaient pas les débats d'aujourd'hui. Donc du coup, moi, quand Bernard Tapie arrive, je vois du spectacle. Mais même si ça reste du spectacle parce que j'y trouve un attrait, je m'intéresse quand même au fond.
Okay.
Mais ça a été, on va dire, le prétexte ou la personne, parce que c'était une personne charismatique, je trouve en tout cas. C'était une personne charismatique. Et donc, c'est elle qui m'a fait m'intéresser à la politique. Mais je m'intéressais malgré tout au fond. Je pense que les deux ne sont pas indissociables.
Non, c'est pas indissociable. Après, moi, ce qui me faisait peur, c'est que tu parlais vraiment de... Enfin, ce qui me fait peur, c'est que tu parlais vraiment de la politique comme si c'était... comme si t'allais au cinéma, en fait. Vraiment, tu regardais pour te divertir et pour
tu
rigoler.
Tu sais, pour être très honnête, tu vois, moi, j'ai travaillé 25 ans dans une collectivité territoriale. Donc, c'est vrai que c'est de la politique aussi. Quand t'es fonctionnaire, t'es dans de la politique à l'échelle locale. Et franchement, quand t'es à l'intérieur, bah, je peux te dire que c'est un vrai cirque.
Mais ça peut répugner.
Donc, du coup, moi, je suis face à une réalité. Tu vois, par exemple, le clientélisme lors des élections municipales. Il y a plein de choses, en fait, que moi, je vois, que j'ai vu de l'intérieur. Et donc, du coup, après, moi, je me fais cette espèce de projection, tu vois, à une échelle supérieure. Donc là, je te parlais des élections locales. Mais après, tu as national. Là, il y a Salima, par exemple, qui est à l'échelle européenne. Après, il y a à l'international. Tu vois, et donc du coup, je peux pas, moi j'ai du mal parce que clairement, j'ai pas confiance aux politiques. En tout cas, je cherche à rencontrer des personnes en qui avoir confiance. Par exemple, Salima qui est là, que j'ai rencontré à maintes et maintes reprises, elle a prouvé, tu comprends, elle a prouvé, même en faisant le tour de France des lycées.
En emmenant les jeunes.
En emmenant des jeunes. Moi, j'ai vu des choses. Et en fait, c'est par le faire. Tu vois, c'est par le faire et c'est par les actes que tu prouves, pas par les mots. Et moi, ce que je trouve aujourd'hui, c'est que les hommes politiques, il n'y a que des mots. Il n'y a que des mots. Et ils sont souvent hors sol. C'est ça, en fait. Parce que là, là je parle de Salima ou même de Gwenola, d'ailleurs, qui disait qu'elle a travaillé en prison. Tu vois, il n'y a pas plus difficile. Salima qui disait, moi je viens des 3000 et moi je suis de Villepinte, donc je connais très bien les 3000. Donc, elle sait de quoi elle parle quand elle va vers les lycées professionnels, quand elle parle des jeunes en difficulté, elle sait de quoi elle parle. Mais moi je trouve qu'il y a beaucoup de personnes politiques qui sont dans la politique, donc du coup, qui doivent parler du peuple, qui sont à l'ouest.
Joanne,
ouais, moi je suis d'accord. Et autant, comment dire, parce qu'on voit la phase émergée de l'iceberg, qui sont les hommes politiques. Derrière, il y a un gros boulot qui est fait par les conseillers, et qui sont tout aussi importants, parce qu'ils influencent beaucoup, et c'est eux qui font un travail de fond, qui vont amener des choses. Et dans ce que tu disais, il y a le par le faire, éviter la parole, enfin, pas que la parole, c'est-à-dire qu'il faut lier la parole au faire, et ça demande aussi une expérience, c'est-à-dire que pour avoir une parole sur un sujet, avoir grandi là-bas, c'est une bonne chose déjà. Avoir travaillé là-bas, c'est une bonne chose. Continuer à y travailler, continuer à rencontrer des gens, continuer... En fait, c'est un tout. Et aujourd'hui, en politique, on a des gens qui se lancent, qui n'ont jamais travaillé, vraiment. Qui ont des conseillers qui sortent de l'école aussi, qui en fait, n'ont pas une expérience de vie, une expérience de différentes cultures, une expérience professionnelle enrichie, etc. Et au final, c'est un microcosme qui se parle et qui est dans ce jeu médiatique. Et au final, c'est pour ça qu'on n'est que dans la parole. Et si on remonte à avant, ce n'était pas forcément mieux sur certaines choses. Pour autant, il y avait des gens qui avaient des vraies carrières de vie. Et donc, ça a été des gens qui avaient quand même un recul, qui avaient peut-être plus de respect, qui avaient plus... Et au final, tout ça, je trouve qu'on le perd. Et c'est aussi un truc qu'il faut aller travailler, c'est se dire, quand je vais voter, quand je vais mettre mon butin dans l'urne, pour qui je vote. Et au final, juste en grattant un petit peu, des fois on se rend compte qu'il y a des paroles, et c'est quoi le concret derrière, c'est quoi l'idée, c'est quoi l'engagement, c'est quoi. Et derrière, il y a des parcours qu'il faut aller chercher, et chercher ce concret, et chercher ce faire. Et aujourd'hui...
Ouais, d'où l'éducation à justement la citoyenneté, et justement on va un petit peu s'appuyer sur ça. Parce que si on n'apprend pas aux enfants, aux jeunes, à devenir citoyens et à prendre possession de justement cette démocratie, mais dans sa généralité, on n'y arrivera pas. Aujourd'hui, on le voit bien. C'est-à-dire que comment un jeune va aller voter alors qu'il ne sait peut-être même pas quels sont les enjeux de quelle élection et quelles sont les élections qui changent, qui ont vraiment un impact sur l'individu. Donc j'aimerais peut-être qu'on fasse un petit cours ensemble d'éducation et que chacun puisse dire quelles sont les élections qu'il a en tête. Les échéances importantes qu'il a en tête, les élections où nous, citoyens, on est amenés à aller mettre un bulletin de vote. Est-ce qu'il y en a comme ça qui vous viennent en tête ?
Nous, citoyens, allez, ou nous, personnellement ?
Attention, okay. Ça va être noté. Hein.
Non.
Sur combien ?
Bah, je sais pas, t'as besoin de combien pour te valider ton diplôme ? Je suis pas sûre que Gwen soit d'accord.
Il n'y a pas de ça, chérie.
Vas-y.
Non, bah, y a les plus grosses, il y a les élections présidentielles.
Okay.
Donc, c'est celles qui sont les plus médiatisées. Il va y avoir les municipales, donc, par rapport aux mairies. Législatives, je crois que c'est pas nous qui votons.
Ouais.
Si je me trompe pas. Hein. Après, qu'est-ce qu'on a ? C'est vraiment les trois majeures.
Il y en a une là qui arrive bientôt. On a une députée européenne, donc du coup, il y a quoi comme...
Je saurais même pas vous dire, c'est vraiment...
Allez, les autres, aidez-le. Et c'est pas son interroge qu'à lui. Hein.
Les européennes.
Les européennes.
Ouais. Si on, on me l'a soufflé, si vous voulez.
Les législatives, ce sont les citoyens qui votent.
Ah, c'est
les sénatoriales, où ce sont les grands électeurs qui votent.
Et moi, je veux juste rebondir sur un truc que tu as dit, et qui est très parlant en France, c'est qu'on se dit que l'élection la plus importante, c'est l'élection présidentielle. Or, dans notre 5e République, ceux qui ont vraiment le pouvoir, c'est les parlementaires.
Mmh.
Et au final, on voit bien qu'il y a cette élection présidentielle qui est hyper médiatisée. On est encore dans un truc un peu de royauté qui est cher à la France. Et donc, c'est une personne qui décide pour la France, c'est la tête pensante, etc. Alors qu'en fait, ceux qui ont le plus de pouvoir, c'est le Parlement. Et on le voit aujourd'hui, c'est-à-dire que le Parlement n'a pas de majorité. C'est presque impossible à gouverner.
Exactement.
Et donc, le rôle des parlementaires est plus important que le rôle du président en France. Vraiment, ils ont plus de pouvoir. Pour autant, dans les médias, c'est parce qu'on véhicule. Mmh. Et on voit bien, il y a l'élection présidentielle, 3 mois plus tard, les élections législatives. Alors, il y a un boom médiatique et puis pff, après, ça redescend. Et ça aussi, c'est une éducation à faire, c'est dire, attention, il y a le vote du président. Mais le plus important, c'est le vote député. Et votre député, il est attaché à une circonscription, c'est-à-dire à votre territoire. Et si là aussi, c'est une méthode politique, parachuter des gens. Et aujourd'hui, on le voit bien, il y a plein de territoires. Mmh. Et si on prend l'exemple de la Seine-Saint-Denis, voir qui est devenu député et qui l'est depuis des années, il y en a plein qui n'ont jamais vécu et qui n'y vivent toujours pas. Mmh. Et ça aussi, c'est un truc à aller chercher. C'est-à-dire, mon député, c'est super important. C'est-à-dire, c'est lui qui va voter les lois, c'est lui qui va faire les lois. Il n'y a pas plus important en France. Et cette élection-là, pour moi, il y a un gros travail à faire. D'ailleurs, la plus importante en France, c'est peut-être celle-là, avec l'élection du maire.
Et pourtant, c'est celle qui passe à la trappe. C'est-à-dire que là, il va y avoir les élections européennes dans pas longtemps. Elles passent complètement à la trappe. Elles sont presque invisibilisées. Il y a plein de choses qui font qu'on n'a pas le temps d'y penser. Et parce que, comme tu disais, Joanne, il y a tout un travail à faire aussi pour faire comprendre aux gens quelles sont les élections qui ont réellement un impact sur nous. On l'a vu. Et là, y en a beaucoup qui ont appris avec tous les 49-3 là, qui sont passés. On se dit, mais comment c'est possible, en fait ? On avait dit non. Et du coup, je pense qu'il y a tout un travail à faire, justement, sur ça. Et c'est pour ça que je me retourne vers toi maintenant, Gwenola. C'est-à-dire, aujourd'hui, toi, tu es à la tête d'une école que tu as pensée. Est-ce que tu peux rapidement nous en parler pour qu'ensuite, on puisse se poser certaines questions, sachant qu'on a notre deuxième chroniqueur qui aime les mettre les pieds dans la tasse Booba, qui aujourd'hui était une mauvaise élève et qui est arrivée en retard, mépris dans les bouchons. Du coup, on t'écoute.
Alors, l'école WENO-ES, donc c'est une école où on délivre des diplômes allant du CAP au master dans plusieurs domaines, secrétariat, commerce, management, RH, communication, informatique, comptabilité, enfin voilà, on a plusieurs domaines. Le but, pourquoi j'ai créé cette école, parce que je suis partie d'un constat, comme je disais tout à l'heure, je travaillais 10 ans dans la formation, dans l'éducation, et j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'inégalités, j'ai vu que c'était pas de la formation pour tous, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui cherchaient à embaucher, mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de jeunes qui cherchaient à être embauchés. Et à un moment donné, je me suis dit, je vais ouvrir une école à mon image où on va mettre en avant tout ce qui est mixité, diversité, inclusion. et tout en alliant l'excellence, la discipline et le mérite. Et voilà, j'ai cru en ce projet, j'y crois encore aujourd'hui, ça fonctionne. On considère les étudiants comme des personnes à part entière, vraiment. On met en avant différentes méthodes pédagogiques. Par exemple, comme je dis souvent, le lundi matin, on ne va pas faire des cours magistraux, on va plutôt faire peut-être des méthodes découvertes ou sinon le fait que les étudiants vont créer eux-mêmes leurs cours, idem pour un vendredi après-midi, par exemple. Donc voilà, c'est tout ça, c'est le fait de les accompagner. On a des coachs, donc des coachs Soparks, des coachs, on les fait intervenir dans l'école pour... permettre aux étudiants de préparer leurs futurs entretiens, d'être aussi sensibilisés sur différents domaines, que ce soit l'IRIX, la politique, etc. On veut vraiment tout mettre en œuvre pour faire une école, alors je vais dire différente, mais je ne descends pas l'éducation nationale. Mais l'éducation nationale, on est vraiment dans du descendant. Ça veut dire que l'étudiant, enfin l'élève, parce que l'éducation nationale, c'est l'élève va s'adapter au prof. Alors que là, nos formateurs doivent s'adapter aux étudiants. Et c'est hyper important. On les forme avant qu'ils rentrent chez Wino.
Vous faites des médiations aussi.
Effectivement, on fait des médiations. Là, la dernière fois, on a eu un incident avec un étudiant et une formatrice où l'étudiante se sentait, entre guillemets, pas comprise, pas aimée de la formatrice. Bien sûr que la formatrice n'est pas là pour aimer qui que ce soit, elle n'est pas là non plus pour être aimée. Mais par contre, nous, on est des outils pour que les étudiants aient leur diplôme et puissent s'insérer ou se réinsérer professionnellement. Donc là, on fait intervenir des médiateurs pour régler les problématiques et pour soulever les freins dès qu'il y en a. Donc, ouais, c'est une école alternative où on met tout en œuvre pour aider nos étudiants.
Du coup, dans ce cadre-là, est-ce que justement le fait d'avoir des jeunes qui puissent rencontrer des acteurs politiques est une piste envisagée, envisageable ? Et en quoi ça peut être une plus-value ? Et là, c'est une question que je pose aux deux, que ça soit toi en tant que directrice de cette école, présidente de cette école, mais vous aussi en tant que jeune, est-ce que l'école peut être le lieu où justement il y a cet apprentissage, cette rencontre avec des personnalités politiques et justement une éducation, non pas à la casquette et à l'étiquette, parce qu'en fait n'importe quelle personne engagée politiquement peut accompagner un jeune dans la construction, la réflexion, la remise en question. Et je pense que de toute façon, ce sont ceux qui viennent se confronter à vous qui se mettent le plus en danger. Parce qu'on sait que le jeune est authentique et du coup, quand je viens, j'accepte tout. Aujourd'hui, Salima, elle nous fait l'honneur d'être là avec nous. Elle accepte ce qui va être dit de bien, mais il y a forcément des choses qui vont être dites et qui sont moins sympas. Tout à l'heure, on a dit, c'est pas très glorifiant. Voilà, c'est des choses auxquelles tu dois faire face et tout le monde n'est pas en capacité aussi d'avoir envie de vivre ça. Donc, juste avant que vous répondiez, Bouba, tu viens d'arriver. Est-ce que tu veux bien te présenter ? Monsieur
Bouba.
C'est ça que j'aime.
Entité Transmission 91, travaille beaucoup avec Soparks sur tout ce qui est atelier, débat, citoyen. Et aussi avec ce cher monsieur, on a l'initiative d'un média qui s'appelle La Récré. Il y a un autre média qui s'appelle Bloc Contre Radio, une émission qui s'appelle Disons-nous les choses.
Et du coup, est-ce que accessoirement, t'es papa ?
Papa de deux enfants.
Ok, donc juste après la réponse du panel, l'idée c'était de se poser la question sur l'impact de l'éducation qu'on donne à nos enfants, l'insertion, sur la politique, la jeunesse et le futur de nos enfants. Avant que tu arrives, ça tombe bien parce que s'il y a des auditeurs qui prennent en cours de route, avant que tu arrives, les jeunes disaient que cette sensibilité à la politique, elle est assez loin d'eux, à part les gros temps d'élection, mais que de l'autre côté, ils se rendent compte aussi de l'importance et du fait qu'il y ait un peu de la politique partout, que ça soit de la politique pure ou de la politique dans certaines actions. On a Johan et Salima, du coup, qui ont parlé aussi de l'initiative qu'ils ont portée et on s'attardera un peu sur les combats et sur le levier qu'ils ont en tant que députés sur comment on peut changer les choses de l'intérieur, parce que c'est quand même un des rôles les plus importants. pour changer les choses dans la société. Et on a Gwen qui nous parlait justement de son parcours, de l'initiative autour de son école et de l'impact que ça peut avoir politiquement parlant. Comme ça, tu vois, on ne te prend pas au dépourvu parce que là, ce n'est pas en direct.
Mais t'es gentil avec lui, il fallait qu'il vienne à l'heure, c'est tout.
Non, mais non, moi, j'aime bien Bouba. Laissez-le tranquille. Alors, du coup, est-ce que justement l'école, et je pose la question à tout le monde, Salima, Johan aussi, est-ce que l'école peut être un levier intéressant pour justement travailler cette éducation à la citoyenneté? Et en quoi?
Alors, moi, pour moi, l'école doit rester un lieu de neutralité déjà, politique. D'accord, ce sont des jeunes qui peuvent être malléables et j'estime qu'il faut faire très attention. Cela dit, pour moi, la citoyenneté, ça ne s'apprend pas, ça se vit. Ça se vit au quotidien, ça doit se vivre à l'école. Quand j'étais directrice d'école, j'avais mis en place un truc qui n'existait même pas encore au collège, c'était le conseil des enfants, et avec un vrai budget et des vraies élections. Et avec une vraie campagne, donc ils avaient de quoi faire leur campagne, etc. Donc ensuite, quand ils élisaient leurs représentants dans chaque classe, souvent, ils venaient me voir en me disant « Ouais, maîtresse ou madame la directrice, ouais, Salima, il y a un souci, il nous a promis ça et il ne le fait pas. » Il y a des élections l'année prochaine et puis vous verrez, c'est comme ça. « Ouais, mais il n'a pas respecté sa parole. » C'était des élections. C'était comme ça. C'est vous qui avez voulu croire. Vous auriez dû regarder s'il avait la possibilité de faire ce qu'il vous disait. Et ça, on en discutait. Donc, c'est au quotidien que ça se vit. On décide de mettre un banc des copains dans la cour. On le fait ensemble. On part d'une problématique d'enfants qui sont... Voilà, c'est des exemples comme ça. Et on construit cette citoyenneté ensemble. Et je suis sûre que l'impact que ça a sur des gamins qui ont vécu dans une école comme ça, leur scolarité, l'impact, il est important après. Et on en fait des vrais citoyens. Parce que c'est au quotidien qu'on discute. Quand on a des conflits, moi j'avais mis en place les messages clairs. Donc on doit essayer de trouver une solution. Et si on ne peut pas, on appelait un médiateur. Il y avait des personnes, enfin il y avait tout un système comme ça d'une micro-société dans l'école pour que la citoyenneté se vive au quotidien. On enrichissait le vocabulaire pour qu'on puisse exprimer ses sentiments. Enfin voilà, il y avait tout un ensemble comme ça pensé. Donc pour moi, l'école, c'est un lieu où la citoyenneté, elle se construit doucement pour arriver ensuite au monde des adultes, mais elle doit rester apolitique.
C'est vraiment de la citoyenneté.
Voilà. Oui, je suis allée dans des lycées et je restais toujours neutre. Je faisais très, très attention sur ce que je disais. On m'interpellait, étant de la majorité présidentielle sur certains sujets. Je regardais toujours les professeurs pour demander est-ce que je peux répondre. Et même dans mes réponses, j'essayais de rester neutre parce que ça doit être un sanctuaire, l'école, et on doit y faire très attention. Ensuite, madame, sur votre école, déjà, j'ai beaucoup d'admiration pour ce que vous faites. Et peut-être, on peut se poser la question de l'échelle. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut faire à une petite échelle et qu'on ne peut sans doute pas faire à une grande échelle qu'est l'éducation nationale. Et au sein de l'éducation nationale, pour y avoir passé un nombre d'années conséquents, il y a des enseignants qui placent justement l'enfant au cœur de leur travail et qui partent de ça. Et je peux vous dire que ces enseignants qui font ça sont nombreux et ça leur coûte beaucoup, beaucoup de temps, même sur leur temps personnel, pour préparer quelque chose d'individuel pour chaque élève le lendemain.
C'est un peu ce qu'on disait il y a quelques semaines.
Pardon ? Excuse-moi, parce que l'échelle...
Ils sont pas... En fait, c'est ce qui est malheureux, c'est que c'est... Et je suis d'accord, il y a beaucoup de profs qui font ça, qui mettent l'étudiant au cœur de leur métier, en fait. Mais ils ne sont pas aidés par ce qu'il y a autour, par le système, parce qu'il manque d'outils, il manque d'argent. Oui, et forcément, ça fatigue, de moyens, comme vous dites, ils mettent beaucoup de temps, même leur temps personnel. Oui. Et ça, on en voit beaucoup. Hein. Et c'est pour ça que je dis que je ne veux pas descendre l'éducation nationale, parce que je sais que de temps, on a des super bons profs, il faut le dire. Mais malheureusement, c'est le tour, en fait, qui fait que aujourd'hui, il y en a beaucoup qui démissionnent en fait, qui sont fatigués tout simplement.
C'est vraiment l'échelle, hein, le nombre d'élèves qu'il y a, je ne saurais pas le dire, tu sais ça Joël, le nombre d'élèves en France, ça doit être énorme. Donc je pense que cette échelle ne permet pas ça, mais par contre ce qu'il faut mettre en œuvre à côté et valoriser, c'est justement le genre de projet que vous avez et qui permet de récupérer les élèves qui n'arrivent pas à suivre dans l'enseignement de masse. Parce que vous allez dans beaucoup de pays à l'étranger, ils envient un système éducatif, pas parfait effectivement, mais eux, ils ne le voient pas comme ça. Eux, ils voient juste la possibilité d'aller à l'école gratuitement. Mmh. Et ça, c'est la base. En France, il faut... Moi, je suis beaucoup dans la critique, mais il faut savoir aussi les réussites. Et les réussites, c'est cette gratuité de l'école qu'on nous envie partout, partout dans le monde. Donc, et puis, pour ce qui est des critiques, tout à l'heure, tu as dit, Aminata, des critiques. Moi, en tant que députée, depuis le début, je ne vais pas pour entendre qu'on me dise que je suis géniale. Et... Non, non, je veux aussi entendre justement le terrain. Qu'est-ce que c'est exactement, les problématiques? Là, vous avez parlé de certaines choses tout à l'heure, juste un peu hors antenne, sur Erasmus et l'alternance. Oui. Voilà, on a échangé là-dessus. Si j'ai la chance d'être réélue, c'est quelque chose vers lequel je vais aller pour essayer de voir comment on peut faire un Erasmus de l'alternance. Voilà, moi, je prends sur le terrain et souvent, quand on va quelque part, on me dit « on vous écoute ». Je dis « non, mais moi, je vous écoute autant que vous m'écoutez. » Donc, je vais répondre à vos questions, mais j'ai aussi des questions à vous poser. Et dans toutes vos réponses, je note et j'en reparle après quand je suis au Parlement. J'interroge un commissaire, une commissaire, au sujet des vraies problématiques des citoyens européens. Donc, c'est vraiment dans les deux sens.
Joanne, oui.
Ouais, après, parce que moi, je critique aussi envers l'éducation nationale sur la machine, pas sur les enseignants. Il faut bien faire la distinction entre les deux. C'est une machine hyper lourde, assez ancienne. On est resté dans des modèles. Parfois, nous, quand on va dans les classes avec Salima, où on se rend compte qu'on a encore des formes avec un professeur des rangées en face, déjà, ça fait le sachant et ceux qui doivent écouter. Déjà, ça,
nous
juste...
Nous en U.
Mais là, déjà, où on va, il n'y a même pas de U. Moi, j'ai connu ça, j'ai 36 ans aujourd'hui. On a commencé les U, j'ai l'impression que des fois, on fait un retour en arrière et on revient avec ce schéma, le sachant, les élèves. Je crois que l'importance pour l'éducation nationale, c'est aussi de s'ouvrir. Là, Gwenala, tu le dis, tu fais appel à Aminata pour certaines choses, à d'autres partenaires. Moi, je trouve que l'éducation nationale, le tort qu'ils ont eu pendant des années, c'est de ne pas s'ouvrir. C'est-à-dire pas s'ouvrir au milieu associatif, au service jeunesse des collectivités, à d'autres, aux politiques, etc. En fait, ça a fonctionné en vase clos, en pensant que c'était le temple du savoir et que ça allait marcher comme ça. Ad vitam aeternam, sauf qu'au final, on n'a plus les mêmes jeunes aujourd'hui. Les jeunes aujourd'hui, ils prennent une vidéo, ça switch en 2 secondes. Ce n'est pas un prof en 55 minutes en étant à son bureau qui va dire « vous allez m'écouter pendant 55 minutes » et c'est comme ça. Ça ne marche plus comme ça.
Ah non, ça ne marche plus comme ça.
Il faut que ces deux mondes-là se rencontrent et nous, on le voit quand on y va. On bouscule un peu les codes, c'est-à-dire qu'on va dans une salle plus grande avec une table où ils sont 5 autour. Et les profs, ils me disent au début… Je ne suis pas sûr que ça va marcher. bon courage pendant les 2 heures. C'est vrai, on l'a eu plein de fois, ça. Pendant 2 heures, et d'autant plus dans les lycées pro, parce que des fois, la semaine dernière, on a fait en 2 jours, on a fait un lycée professionnel apparemment très compliqué sur Toulouse, et la veille, on a fait Sciences Po. Je vais le dire un peu vulgairement.
C'était Sciences Po depuis.
Ouais, on s'est fait un peu chier à Sciences Po. Sans être vulgaire.
Voilà.
Non, 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 mais c'est dans ce sens-là. C'est,
voilà, ils vont vous entendre.
Oui, non, mais c'est pas méchant. C'était policé. Voilà, c'était policé. Dans le lycée pro, on a été challengé. C'est-à-dire qu'il y a eu des questions sur des choses qui ont été mises en place, sur la société d'aujourd'hui. On a été challengé. Et vraiment dans un format ouvert. Et en fait, quand on ouvre, il y a du dialogue. Et dès qu'il y a du dialogue, il y a de l'intérêt. Et donc, ensuite, la transmission du savoir, elle est beaucoup plus intéressante. Et je trouve que dans la forme aujourd'hui de l'éducation nationale, sur plein de choses, ça reste vraiment un peu ancien, c'est plus adapté à aujourd'hui. Et au final, il n'y a pas ce rapport-là entre l'adulte qui est là pour transmettre et pour accompagner et des élèves qui ont envie de partager quelque chose. Et il faut trouver
bien sûr,
ça.
C'est ça.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les jeunes, quand vous entendez ça? Vous dites quoi?
Moi, je voulais bien revenir sur le fait qu'elles disent que l'école, c'est vraiment un lieu d'impartialité où on ne doit pas prendre de parti. Je suis d'accord, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas forcément éduquer les jeunes de notre âge et même des plus jeunes à être citoyen. La citoyenneté, ça se vit, comme vous l'avez dit, mais ça s'apprend aussi. On apprend à être un citoyen. On ne naît pas citoyen, on le devient. Donc, ça serait, moi, j'aurais aimé qu'on mette en place des cours de 1 à 2 heures par semaine maximum, mais il n'y a pas besoin de faire plus. Histoire de... Bah, vous êtes en France, mais qu'est-ce que vous devez faire en France pour que ça marche mieux? Vous plaignez, certes, mais pourquoi on ne ferait pas ça à la place des une ou deux heures de débat par jour, par semaine, pardon, où est-ce qu'on va pouvoir essayer de parler de ce qui ne nous plaît pas, de ce qui nous plaît, parce qu'il y a des choses qui nous plaisent aussi en France. Il y a plein d'initiatives qui sont très bonnes. On parle beaucoup du négatif, mais il y a aussi pas mal de choses qui sont très, très positives. Mais Du coup, oui, moi, je trouve que ce serait bête de dire que ça doit être forcément impartial ou qu'on doit forcément chasser la politique de l'école, alors que vraiment, ça, c'est... Non, c'est pas ce que vous avez dit. Mais...
En fait, Salima, tu parlais plus des étiquettes, c'est-à-dire droite, gauche, extrême droite, etc.
Mais même ça, on n'est pas éduqué à ça. Moi, actuellement, j'ai 18 ans, et je ne saurais même pas vous dire ce que c'est la gauche et la droite. Je connais les grandes lignes, mais je ne saurais même pas vous dire ce que c'est.
Mais cette éducation, il n'y a aucun souci, c'est comme pour la laïcité. La laïcité, c'est pas... On a le droit d'étudier, d'apprendre ce que sont que toutes les religions, ou les a-religions pour ceux qui n'en ont pas. Enfin, voilà. On peut apprendre ça. Le truc, c'est de ne pas prendre parti. Qui est pas un enseignant qui prenne parti par exemple là-dessus en disant ça c'est bien et ça c'est moins bien. C'est la même chose pour la politique. Avoir une culture politique, et ça c'est ce qui m'a manqué, de ne pas savoir ce que c'était que le courant parti communiste, d'où ça vient, pourquoi voilà les couleurs, pourquoi la faux, etc. Pour les socialistes, d'où ça vient, pour les républicains, enfin voilà, tous ces groupes politiques, de pas connaître leur histoire, ça m'a manqué. Et effectivement, ça a sa place, ça a sans doute sa place à l'école. Ce que je veux dire, c'est les partis pris. Une neutralité de l'enseignant ou d'un enseignant qui vient faire, qui me fait venir dans son établissement scolaire et qui dit que mon parti, tout ce qu'il fait, c'est génial et les autres, c'est tous pourris. C'est ça. Par exemple, moi, j'ai été interdite d'entrer dans... On m'a empêchée d'entrer dans un groupe politique à Marseille, m'a empêchée d'aller dans un lycée. C'est pas normal.
Pourquoi ?
C'est pas normal. Parce que je ne faisais pas partie du même groupe politique que ce député. Je ne citerai pas. J'avais deux lycées. Il y en a un dans lequel j'ai pu aller. Et le deuxième, on m'a interdit d'y entrer parce que je ne faisais pas partie de son groupe politique. Après, ce n'est pas normal.
C'est à la limite de l'endoctrinement aussi. Parce que du coup, on ne vous montre que ça et voilà. On vous interdit de voir autre chose.
Exactement.
Ça, et ça, c'est pas normal. Weno inaugure son école à Marseille, ça te fera une deuxième.
Ouais, c'est ça. Mais pour rejoindre tout ce qu'ils disent, nous... Effectivement, on est en train de mettre en place les jeudis politiques à Weno. On va faire intervenir, je ne sais pas si je peux citer le nom, donc on a déjà deux personnes qui vont intervenir au sein de notre école, qui sont donc au gouvernement. Et,
tu peux citer, il n'y a pas de souci. Ici, on peut tout dire.
Bon, on a un député. Alors, c'est des partis en plus totalement différents, mais comme on dit, il y a la neutralité. On n'est pas là pour ça, on est là pour effectivement que les jeunes reprennent confiance, en fait, reparlent avec la politique et comprennent aussi, parce qu'effectivement, quand c'est Zakaria, gauche, droite, pour eux, même nous, des fois, on est perdus. Franchement, la vérité, nous aussi, on est perdus. Mais voilà, on a le député Carlos Bilongo qui doit venir voir notre école et venir parler avec nos étudiants. On a, je ne sais pas, Patrick Toulmé, le délégué interministériel de l'apprentissage, qui lui également, qui était mon ancien président de la Chambre des métiers de Bobigny, ouais. Donc c'est pour ça, qui va venir au sein de l'école. Et le but, c'est de faire intervenir. Au début, on a eu peur. Je me suis dit, bon, il y a différents partis, est-ce que ça a posé problème, etc. Mais finalement, après, avec une discussion avec le directeur de l'école, on s'est dit non, finalement, c'est bien pour les étudiants, c'est bien qu'on en parle et qu'on le mette en avant parce que c'est important, la politique, c'est important aujourd'hui.
Et après, ce sont pas des meetings, ça veut dire
si
que
Madame la députée veut venir aussi,
avec grand
super.
Plaisir,
Madame Yembou. C'est très important et l'idée, c'est pas de faire des meetings. C'est un peu comme ce que Zakaria disait. Nous, les adultes, on va avoir pour faire le lien avec nos propres enfants. Soit on invisibilise une partie des choses comme si elles n'existaient pas, soit on la diabolise. Et après, on idéalise ce que nous semble être proche de nos valeurs, mais finalement, c'est pas ça l'éducation. C'est de montrer tout ce qu'il existe et de laisser les enfants cheminer, se poser des questions. Bah, tiens, il a tenu tel ou tel propos, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? À quoi ça fait référence, etc. Alors qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est des jeunes qui rentrent en politique sans avoir eu d'éducation, sauf celle de la maison. Donc des idées en fait de tes parents en fait et du coup qui rentrent dans des familles politiques qui sont peut-être en inadéquation totale avec leurs valeurs, ce qu'ils souhaiteraient, etc. Mais ils le revendiquent haut et fort parce que en fait c'est un héritage familial. On est fiers, on a envie que nos parents soient fiers de nous. Donc si moi maman je vote tel parti, mes enfants ils seront fiers et je pense même que au bout d'un moment ils s'en foutent de ce que les autres diront. Si papa et maman sont fiers que je brandisse le même drapeau et la même étiquette politique qu'eux, bah, c'est jackpot. Parce qu'au moins, ils seront fiers de moi. Et du coup, si on n'a pas cette éducation et si on n'accompagne pas les jeunes à avoir un esprit critique, ça veut dire qu'en fait, on perpétue, on continue à voter comme ses parents, comme ses parents, comme ses parents, en étant très éloigné en fait, de ce qui nous est proposé. J'aimerais bien entendre un peu Booba avant qu'on passe à la version européenne et qu'on se demande comment vous, jeunesse, vous avez vu comment je suis gentille, je vous donne un peu des questions d'avance, comment vous vous projetez justement et est-ce que vous arrivez à vous projeter au-delà des frontières de la France? Quand on vous dit Europe, est-ce que vous voyez vous voyager et quels pourraient être les freins à cela? Et juste avant, pour préparer Salima aussi, parce que je suis trop sympa aujourd'hui, de remettre un petit peu le curseur sur qu'est-ce que l'Erasmus et je crois qu'il y a un deuxième dispositif, Discord.
Discovery.
Vous avez vu, je suis nulle en anglais, je ne le dirai pas, je ne le répéterai pas. Mais avant, Booba.
Désolé pour mon retard déjà.
Il y a des jaloux ici.
Oui. En fait, j'ai essayé un peu de résumer ce que j'ai entendu depuis tout à l'heure. Donc, du coup, moi, ce que je me dis, c'est que j'ai tendance à dire à des jeunes que tout est politique et que même quand tu ne t'intéresses pas à la politique, en tout cas, la politique s'intéresse à toi. Et que tout est politique, même quand on n'en a pas conscience. Par exemple, ne serait-ce que les aides par rapport au transport en commun, les transports scolaires, il y a eu des mesures qui ont été votées au préalable, en amont. Donc du coup, même tous ces accès aux droits qu'on peut avoir dans notre vie quotidienne, en vérité, il y a des mesures politiques qui ont été votées par des élus et ainsi de suite. Et comme le dit une amie à nous, Juliette Fievé, dans une émission de Grace TV, un ami à nous, les programmes politiques se font en fonction de leurs électeurs. Donc encore une fois, tout est politique. Et au-delà de la politique de parti, tous nos actes sont politiques et dans le sens le plus noble du terme, je dirais même. C'est-à-dire que même les actions sociales, c'est-à-dire lorsqu'on crée une association et qu'on fait des maraudes, c'est un acte politique en fait, faire une maraude. Venir en aide à des bénéficiaires, c'est un acte politique en fait. Être en plein milieu d'un quartier, d'un village, organiser un barbecue... inciter, enfin faire en sorte que les gens discutent. Il y a des idées qui en ressortent de ces discussions ou même de ces repas lors d'un village. Et on n'est pas encore dans les pieds dans le plat, donc je vais m'arrêter là.
Merci. Est-ce que tout le monde, hein, n'importe qui, avant qu'on passe sur justement vraiment l'Europe et comment on peut se projeter et améliorer la mobilité vers l'Europe, que ça soit pour nos enfants et nous en tant que parents aussi, quels sont les freins qui nous empêchent de laisser nos enfants partir? Est-ce que quelqu'un veut dire une dernière chose sur cette partie insertion, éducation, politique?
Ouais, moi ce que je voulais dire concernant le fait de faire entrer des personnalités politiques dans les établissements scolaires, c'est que lorsqu'on les fait rentrer, il faut que ce côté politique soit juste leur métier.
Bien sûr.
C'est-à-dire qu'on les accueille au même titre que j'accueillerais un mécanicien ou un acteur ou un chanteur. Et du coup, ce qui va être intéressant, c'est créer ce lien entre les jeunes et la personne qui vient. Pas forcément avec sa profession, mais plus avec la personne. Parce que du coup, on va, à mon sens, dédiaboliser ou un peu plus personnifier. C'est bizarre ce que je veux dire, mais c'est vrai que le politique, il est un peu...
Sacralisé.
Du coup, donc c'est important de désacraliser du coup et de voir juste uniquement l'individu en face de nous et un individu qui passe du bon temps, un temps de détente, d'échange avec une jeunesse.
Super important. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite poser une question ou...
Juste sur la citoyenneté, un peu pour rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, sur le fait de s'apprendre et se vivre, c'est un mélange entre les deux qu'il faut trouver à l'école. Apprendre de manière très concrète ce que c'est qu'un maire, ce que c'est que des conseillers municipaux, etc. Comment est composé le vote, etc. Bon, voilà, ça c'est une fiche qu'on peut trouver à peu près partout. Mais après, mettre en situation et dire, bon ben voilà, vous êtes des forces différentes politiques, vous, c'est votre ligne, c'est ça, vous, votre ligne, c'est ça, etc. Et vous devez voter l'installation d'une école, mais on ne sait pas où et pour combien d'élèves, etc. Et vous mettez en action. Et là, on voit que la politique, c'est jamais... Il y a plein de nuances, en fait, que c'est compliqué. Il faut échanger, qu'il faut discuter et que c'est aussi une question de force. Mmh. Le parti qui a le plus de force, c'est lui qui va imposer... où va être implantée l'école.
Après, c'est le principe de la démocratie.
Oui, tout à fait. Mais ça doit s'apprendre aussi en action. Ici, pas très loin à Madeleine, il y a l'Europa Expérience qui est génial. Je vous invite à y aller. On y est allé pour une réunion.
Je connaissais pas.
Et ça permet, c'est génial. Ça permet de se mettre en situation, être un député dans la peau d'un député qui négocie un texte. Et là, vous voyez comment l'histoire du compromis tout à l'heure dont je parlais, comment la négociation peut amener à des forces différentes, enfin à des textes différents suivant la force des partis. Parce que c'est vraiment ça, la politique. Donc, il y a un mix à trouver. Et à l'échelle européenne, on a voté, j'ai travaillé sur un dossier qui était justement comment construire la citoyenneté européenne, et notamment par un programme commun à tous les pays européens. Donc ça, c'est à venir.
Du coup, Stécie, c'est à toi que j'ai envie de poser cette question. Quand on te dit opportunité à l'étranger, est-ce qu'il y en a qui te viennent en tête? Est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui, il y a des opportunités à l'étranger et notamment en Europe? C'est-à-dire qu'on dit que la France fait partie des pays européens. Est-ce que en tête, tu as des opportunités là, qui te viennent en te disant bah, « Tiens, là, quand je serai diplômée, je pourrais peut-être faire ça, ça ou ça. » Ou est-ce que tu as l'impression que en fait, c'est juste un grand mot et qu'il n'y a pas d'opportunités
Non, franchement, je pense qu'il y a des opportunités. J'ai été diplômée aussi en coiffure. Mmh. Je sais que mon école aussi proposait des jobs à l'étranger. Donc, non, pour moi, il y en a. J'avais même voulu aller aux États-Unis il y a quelques années, où il y a eu des associations. J'ai contacté des associations, etc. Mais j'ai été freinée par peur, je pense.
Ok. Mais, c'était quoi, fille au père?
Non, du tout. C'était, franchement, je pourrais plus
dire. Plus.
Moi, c'était une association sur Facebook où vraiment, ils nous aidaient à nous installer, à trouver un travail, mais tout se faisait avant. Mm. Mais je pense que le fait de partir aussi toute seule, je pense que ça m'a fait un peu peur. Et à la fin, je me suis retirée. Mais pour moi, non. Enfin, même là, si vraiment j'aurais voulu partir, me connaissant moi et comment je suis débrouillarde, je pense que franchement, il y a des possibilités pour les gens, en tout cas, qui veulent partir.
Ok. Zacharia, quand on dit Europe, monde, voyage... insertion, est-ce que tu as des opportunités qui te viennent en tête?
Bah moi, il faut savoir qu'à la base, je voulais partir à Londres il y a quelques mois. Du coup, j'ai commencé à économiser tout ça, mais je me suis rendu compte que c'est vraiment, vraiment super cher.
Ok.
Et j'y vais à Londres, c'est surtout parce que je parle bien anglais, j'ai un bon langage, mais j'ai pas un bon accent. Du coup, je voulais plutôt pratiquer. Et c'est pas en un week-end qu'on pratique. J'ai l'idée de faire une ou deux semaines. Les frais d'hôtel, les frais, parce qu'il faut internet là-bas, donc les frais 4G, manger. Je vais à Londres, donc je vais faire quelques sorties.
Les frais 4G, c'est la première fois que j'entends.
Ouais,
la
4G.
Frais internet,
pour de vrai. Bah oui.
Non, mais je le comprends, mais c'est la première fois que je l'entends.
Oui, je viens de l'inventer.
Ok.
Ça sera breveté, c'est sûr.
Non, du coup, ça coûte vraiment super cher. Et pour deux semaines, j'avais compté, j'étais à 4 chiffres. J'ai 18 ans, je suis en alternance, je sors pas 4 chiffres comme ça. C'est pas possible. Du coup, vraiment. Pourtant, j'ai vu qu'il y avait quelques aides et tout, mais c'est.
T'as vu quoi quand même? Est-ce que tu te souviens un peu de ce que t'as pu voir?
Bah, il y avait la solution, il y avait le truc déjà, un jeune solution, j'avais vu. Et je sais que par rapport à certaines écoles, ils pouvaient financer. Mais ça reste très abstrait quand j'ai cherché, ça reste vraiment très abstrait.
Oui, mais en tout cas, c'est intéressant parce que c'est ce qui nous permet, nous aussi, en tant qu'adultes, si on veut changer un peu les choses, de se dire où est-ce que se situe le frein? Peut-être que nous, on va se dire le frein, il va être au moment où il va remplir le dossier, alors que tu vois, dans ce que tu dis, le frein, il est bien avant. Il est quand tu commences à rechercher, faire tes dossiers, quand tu commences à chiffrer, tu n'as même pas envie d'aller à l'étape supérieure. Donc du coup, c'est très intéressant ce que tu viens de déposer là. Est-ce que là, dans les adultes, certains ont une idée? On dit jeunesse, mobilité, étranger. À votre avis, quels sont les freins?
Moi, je serais le premier frein. Moi.
Pour tes filles?
Bah oui. Je pense.
Heureusement qu'elles ont une mère.
Je pense que je serai le premier frein. Parce que ça me fait peur.
Ah, t'as peur de quoi?
J'ai peur du monde, moi. Moi, j'ai peur du monde qui nous entoure. Et de savoir mes enfants loin de moi, ça me fait peur.
Ok. Les autres, et du coup, après, on laissera peut-être Salima, Johan, réagir et te rassurer sur justement ce qui est mis en place dans l'accompagnement des jeunes. Parce que c'est pas tout de... Et peut-être même que Gwen a des éléments de réponse, mais c'est pas tout d'encourager la jeunesse à se mouvoir et à aller à l'étranger. C'est quelles sont les réponses qu'on peut apporter aux parents aussi pour les rassurer.
C'est ça.
Donc, je pense que c'est important que tu aies mis le doigt sur ça.
Je pense que, avant tout, je pense que le frein, c'est l'information, en fait. Je pense qu'on n'est pas assez informés, que ce soit les étudiants ou même les parents, sur comment ça se passe et le processus. Enfin, moi, je pense qu'on manque d'informations sur ça.
Ok. Joanne ?
Moi, je trouve que c'est... Alors, il y a un manque d'informations. Il y a la contrainte budgétaire qui, forcément, à un moment donné, va se poser. Et avant ça, c'est aussi une socialisation. C'est-à-dire que si dans son entourage, on n'a pas quelqu'un qui l'a déjà fait, des fois, c'est compliqué. C'est comme la première personne dans une famille qui va aller à l'université. Mmh. C'est-à-dire que lui, il va ouvrir des portes, ceux qui sont à côté, ceux qui sont en dessous. Et en fait, le voyage, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que si on est dans une famille où personne n'a voyagé, le premier qui va le faire, c'est la grande découverte. Forcément, il y a beaucoup de craintes dans la famille, mais aussi pour lui. Il se met des barrières. Comment je vais faire, surtout si j'ai l'habitude de vivre dans un espace assez restreint. Et ça, c'est, je trouve que la première barrière, c'est celle-ci. C'est-à-dire que même si on a l'information, moi, je peux me dire que ce n'est pas pour moi, parce que personne ne l'a fait, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont se poser. Donc, ce côté-là de... comment travailler le fait de se dire c'est possible pour moi et au final mes barrières je vais les enlever une à une. En fait il y a d'autres étapes, on en parlait un peu en coulisses avant. Erasmus, lancer quelqu'un dans un Erasmus quand il n'est pas habitué à voyager, à être en dehors de sa famille, à être trop compliqué. Le Discover You, ça peut être déjà quelque chose, mais rien que le voyage scolaire dans une scolarité, c'est-à-dire que une classe de mer, une classe de neige, peu importe, avec son service jeunesse, de partir l'été en camping dans le sud de la France, etc. Ça, en fait, c'est des grosses ouvertures. Et c'est-à-dire que déjà, si on passe par là, derrière, on a des possibilités de se dire « Non, en fait, je sais que c'est possible. J'ai déjà fait, je suis parti une semaine avec mes potes, projet sac à dos, on est parti dans le sud. Je sais que c'est possible. Je sais que je peux être débrouillard là-dessus. » Et en fait, il y a des séquences qui vont amener à ce que ça soit plus facile d'aller sur des mobilités européennes, moi je trouve, ou des mobilités à l'international. Et ces freins-là, pour moi, c'est les plus compliqués. Parce que si on a dépassé ça, une fois qu'on a l'information, puis aussi notre famille, elle a eu l'habitude que du coup, je sois parti, ça s'est bien passé, etc. Mais cette socialisation à la mobilité, c'est super important. Et là-dessus, l'école, elle peut jouer un grand rôle.
Oui, bien sûr.
Les jeunes, vous êtes d'accord avec ça ? Que si déjà, on vous encourage à faire des petits voyages pas très loin dans un premier temps, mais déjà habituer vos parents à quitter le nid pour ensuite pouvoir traverser les frontières, ça aide.
Vas-y.
Oui, ça aide. Après, je rejoins un peu ce que tu disais. Dans le monde dans lequel on vit, moi je vois par exemple mon frère et ma nièce. Mon neveu, il aura pas de mal à le laisser partir, mais sa fille, ça va être un peu plus dur. Même s'il va la laisser partir, on sent que c'est dur. Mais franchement, ça aide. Après, ça dépend vraiment, c'est propre à chacun.
Mais est-ce que c'est pas aussi... tu parlais de voyager, Joanne. Est-ce que aussi, t'as pas des parents qui eux-mêmes n'ont pas voyagé? Qui eux-mêmes ne bougent pas?
Oui.
Ils sont en fait... on parlait tout à l'heure de la mobilité des jeunes dans les quartiers prioritaires notamment. Est-ce que les familles, à part leur parcours migratoire qui les a amenés ici et parcours traumatique dont on parle trop peu, donc le trauma de partir et de tout ce qu'on trouve et tout ce qu'on a pu vivre aussi à travers ce voyage, quelque part, est-ce que des années et des générations plus tard, il ne vient pas se manifester quand nos enfants nous disent « je veux tout quitter pour aller ailleurs » et qui parle à une famille qui arrive d'ailleurs et qui sait ce que c'est que d'avoir tout quitté pour arriver ailleurs, là où c'était censé être l'Eldorado. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi à travailler sur ce qu'on vend, l'Erasmus, la mobilité, l'étranger, les opportunités, et de laisser notre enfant partir en allant vers et découvrir peut-être ce que nous-mêmes on a traversé ou découvert dans nos propres parcours. Et quand je dis « nos », c'est ceux de nos parents ou de nos grands-parents, mais quand ils sont arrivés en France, il y avait une promesse derrière aussi.
Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Déjà, dans tout ce qui a été dit, je nomme l'anglais, Malte et l'Irlande, c'est en Europe, c'est moins cher. L'Angleterre a choisi le Brexit. Ouais, mais beaucoup moins maintenant. Demandez aux jeunes quand on votait le Brexit, justement, on parlait de vote et de démocratie, croyez-moi. Effectivement, le frein familial, c'est celui qui reste à la fin. C'est-à-dire que parfois, on a l'information, on réussit à trouver le budget et il reste le frein familial. Et ça, le frein familial, c'est pour, justement, je ne sais plus qui disait l'école est important. Oui, parce que souvent, on a confiance en les enseignants. Mmh. Et du coup, il n'y a que ces personnes-là qui peuvent lever ces freins-là avec des discussions. Le problème, c'est que c'est souvent pour les filles. C'est souvent pour les filles, beaucoup plus pour les garçons. Donc, il y a quelque chose aussi, à une semaine de l'égalité des droits, à continuer à travailler. Pourquoi les filles n'auraient-elles pas le droit à la même liberté que les garçons ? C'est ça aussi que ça questionne. Et quand je vous vois, vous avez l'air très solide et il n'y a aucune raison qu'on ait peur que vous alliez ailleurs. Cela dit, et là, tu disais Aminata, les mamans, on a toujours peur. Quand vous partez, sauf qu'aujourd'hui, on a le téléphone. Et ça, c'est facile. Bon, mon fils est parti bosser à Nice il y a une semaine. Là. Il a 23 ans. J'ai passé mon temps à l'appeler, à lui dire ça va, comment ça va, pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais arrivé. Ça, c'est normal d'avoir peur pour ses enfants. Mais de là à les empêcher d'aller ailleurs, c'est finalement de s'envoler. Je crois qu'il y a un juste milieu à trouver, notamment pour les filles. Suivez mon regard. Erasmus, pour moi, c'est vraiment le projet phare européen. Et ce mandat, je me suis attelée à ce qu'il soit vraiment inclusif. Vous l'avez dit, c'est hyper compliqué, l'information, etc. Et le travail que j'ai fait, c'est d'essayer de demander à ce que ce soit le plus facile possible, notamment pour les milieux les plus éloignés. Parce qu'il y a tellement de choses à gérer en plus que si on pouvait alléger tout ce qui était administratif, ce serait bien. Et on va dans cette direction-là et on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus d'Erasmus. Erasmus, effectivement, c'est un projet quand même assez long, qui peut être assez long. Et il y a un petit programme pour les auditeurs qui ont 18 ans cette année, qui s'appelle Discover You et qui est beaucoup plus simple à obtenir. Et d'ailleurs, l'appel d'offres, c'est là, ça va tomber, mars et octobre. Donc, dans l'année de ses 18 ans, on postule, on peut avoir un billet de train ou plusieurs billets de train pour partir partout en Europe avec une certaine somme pour vivre au quotidien. Donc, je ne sais plus combien c'était, mais c'est autour de 80 €, je crois, par jour. Ce qui permet d'aller partout en Europe. Et ça, c'est un premier. Et entre 2 ou 3 et 30 jours. Donc, c'est vous qui choisissez, qui modulez. Vous pouvez changer de pays. Vous pouvez y aller à 5. Vous pouvez y aller à 5. 5 copains ou 5 copines ou copains-copines, enfin, comme vous voulez. 5 personnes qui vont ensemble. Donc et vous postulez ensemble. Et vous réussissez ensemble.
Ça, je te coupe la parole, mais ça, c'est super important.
Oui.
Tu sais, quand on est allé dans les lycées, bon, déjà, il n'y en avait que 7, je crois, sur 1200 qui connaissaient Discover You. Peu. On se dit, putain, c'est pour eux. Au final, ils n'ont pas l'info. Donc,
ouais, y a ça, je ne connaissais pas. Moi.
Et quand on leur parlait de ça, des fois, ils se disaient, bon. Et le fait de pouvoir partir en groupe, c'est-à-dire de pouvoir y aller à 5 et non tout seul. Ça change tout. Erasmus, c'est tout seul. C'est ça, si je ne me trompe pas.
Enfin, ça peut être en groupe mais
chacun
aussi. Mais
chacun dans comme Stécie, elle disait juste avant, partir toute seule, ça me faisait peur. Mais si l'opportunité a été de partir à 5, ça aurait été vraiment différent. Il nous reste 4 minutes d'antenne. À chaque fois, on se fait avoir tellement on pourrait parler des heures. Erasmus, tu nous en as parlé brièvement, mais je pense qu'on fera juste une capsule après avec Anne qui te posera la question pour que justement tu puisses bien dire ce que c'est, comment on peut le trouver, quelle opportunité derrière. Gwen, est-ce que tu veux nous parler aussi peut-être d'une petite actu ?
Oui, juste.
Et puis ensuite, les garçons mettront les pieds dans la tasse pour que les auditeurs continuent chez eux autour d'une thé.
Petite actualité, donc on ouvre un nouveau site sur Marseille, donc dans les quartiers nord, c'est fait exprès. On va là où les gens ne veulent pas aller. Donc on ouvre une école dans les quartiers nord, on fait une porte ouverte.
Sauf moi.
Voilà, merci. On fait une porte ouverte le 16 avril, donc ça y est, Marseille, on arrive. Et on est très content de pouvoir offrir une école à tous ces jeunes, parce qu'on a vu que beaucoup de jeunes étaient en décrochage et n'avaient pas forcément accès à d'autres écoles. Donc, on est content de s'installer à la Palmeraie du Canet. Et donc, voilà.
Si tu avais l'occasion, un partenariat avec une école étrangère, ça vous dirait ?
Oui, alors on a fait, alors juste, je vais parler très vite. Nous, on a emmené l'année dernière nos masters à Dubaï. Ils étaient en lien avec des écoles là-bas. Et il y en avait beaucoup qui n'étaient jamais sortis de la France. Il y avait même un papa pour rejoindre par rapport aux filles qui m'avait appelé, qui m'avait demandé plein de choses parce qu'il avait très peur. Et nous, si on pouvait faire des partenariats à l'étranger, on est vraiment d'accord. Et en plus de ça, nous, on est prêts aussi à mettre des fonds. Parce qu'on n'a pas ouvert cette école, alors je tiens à le dire, on n'a pas ouvert cette école pour gagner de l'argent.
C'est vraiment un projet de vie. C'est vraiment quelque chose en lequel on croit. Donc nous, nos fonds, on est capable de les mettre pour pouvoir loger des jeunes et pouvoir aider, développer des choses. Donc vraiment, il faut l'entendre.
Salut ma Joanne, Actu. On n'a pas beaucoup de temps, on a peut-être une minute. Mais Salima, tu sais faire en une minute, donc ça, ouais, c'est génial, ça, déjà.
Non, là, bah, mon actualité, ça va être les élections européennes et notamment faire voter un maximum de jeunes. Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple du Brexit. C'est un exemple très clair qui permet de comprendre comment des jeunes n'ont pas été votés contre ce Brexit et que ce sont des personnes plus âgées et sans doute plus riches d'ailleurs qui ont voté pour ce Brexit, sauf que les conséquences aujourd'hui, ce sont les jeunes qui subissent ces conséquences. Donc moi, mon actualité, c'est de faire voter un maximum de jeunes aux élections européennes du 9 juin.
Super, merci à vous. Et chers auditeurs, je sais que ça va tellement vite et on est à chaque fois un peu pris de court. C'est pour ça que Barberiche et Bouba vont quand même poser la question de les pieds dans la tasse pour qu'à la maison, vous puissiez alimenter un petit peu les échanges. On vous écoute les garçons et puis on finira par remercier mon Paris FM, le plateau et rendre l'antenne.
De toute façon, nous, on arrive toujours dans les arrêts de jeu.
Bah ouais, c'est ça.
On aime bien. Après, avec le respect que j'ai pour tous les hommes et femmes politiques, est-ce que la politique n'est pas un dîner de cons? Ceux qui ont la ref comprendront. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'à force de rester en politique et de vivre ces tribulations, à la longue, on ne perd pas ses valeurs?
Oh, et bien franchement, j'espère qu'il n'y a pas qu'une tasse de thé à la maison, mais deux. Bouba, tu as une question pour que les auditeurs poursuivent à la maison?
Avant de poser ma question, je dirais juste que le monde est méchant. Et c'est pour ça que je rejoins mon ami là qui avait du mal à... Moi, j'ai deux filles, donc c'est compliqué de lâcher nos filles comme ça, tu vois. Enfin, de les libérer comme ça, de nous. Tu vois, c'est notre troisième bras. C'est... Ma fille, c'est mon... Elle a... Enfin, ensemble, quoi. Et voilà, quand... Le monde est plus sécurisé qu'avant. Mais quand je vois certains faits divers, je me pose des questions. Et quand je vois certains films comme Taken 1, 2 et 3, je me pose des questions.
Il y a de quoi.
C'est pour la ref aussi.
Merci. T'avais une question pour les pieds. Non, c'est bon. Ok, on est d'accord. Merci à tous d'être venus. Merci. Je sais que c'est court et qu'on aimerait y rester des heures et des heures. Mais il y a d'autres émissions derrière nous. Merci à mon Paris FM de nous recevoir comme d'habitude. Et surtout, n'oubliez pas, personne ne doit rester à l'arrêt. Ciao.